Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Monty Python Flying Circus.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Je vous dis John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin, Graham Chapman et Terry Gilliam. Vous me dites les Monty Python. Et si donc je vous dis les Monty Python, vous pensez immédiatement à des films. Et si vous aimez l'humour absurde et provocateur, si vous avez bon goût donc, vous élevez au panthéon des chefs-d'œuvre cinématographiques de l'humour des Vies de Brian, des Sacrés Graal ou des Sens de la vie. Et des scènes mythiques que la décence m'interdit de vous raconter ici vous viennent immédiatement à l'esprit.
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life.
Surtout qu'en plus, il y a une raison. Vous parlez maintenant des Monty Python et vous avez tout le podcast pour tenter de la découvrir. On ne vous la donnera qu'à la fin. Sauf que là, il s'agit de films. Et nous, ici, à Previously, on parle de séries. Alors, il y a deux options. Option 1, j'ai craqué. La fatigue, le stress, le manque de latte macchiato, le visionnage forcé de Dutch Leyland ou de Marseille. Voilà. Option 2, les Monty Python, tout ça, ça vient de séries télé. À leur origine et après leur succès. Le monde des séries a baigné les Pitons. Série à sketch ou sitcom mythique. Eh bien, c'est l'option 2. Les Monty Python sont nés et se sont développés pendant des années à la télévision, dans la vénérable BBC. Sauf que nous, Français, on l'ignorait totalement, puisque nous avons pu voir leur série après avoir découvert leur film. Bon, c'est un peu comme Star Trek, quoi, où nous avons vu le premier long-métrage Star Trek The Motion Picture sans avoir eu la diffusion de la série d'origine. Car oui, la première diffusion de la série télé des Monty Python dans notre pays date de 1991 sur Canal Jimmy et sur France 3 dans Continental, l'émission d'Alex Taylor. Et leur premier film est sorti en France en 1974. 15 ans de retard. Et pourtant, la série télé des Monty Python démarre en 1969 avec, en générique, la musique The Liberty Bell, une marche militaire américaine composée par John Philip Sousa en 1893.
Hello and welcome to another edition of Blood, Devastation, Death, War and Horror.
Pour nous parler des Monty à la télé, j'ai demandé à un spécialiste, S. Python, de me rejoindre. Et c'est un vrai plaisir que d'accueillir Romain Nigita himself.
Bonjour Alain, écoutez, c'est un plaisir partagé.
Alors Romain, vous êtes tué. Allez, on va se tutoyer, c'est plus simple.
C'est parti.
Journaliste au JDD, qui comme son nom l'indique, est un journal qui sort le dimanche.
Exactement, tous les dimanches, et j'ai le plaisir d'y parler série télé. On m'avait proposé de parler sport et ils se sont vite rendu compte que c'était pas la peine.
Et nous parlons charcuterie dans un livre que nous avons coécrit.
Tout à fait, Charcuteries Anatomie, donc.
Voilà.
Voilà.
Non, c'est Séries Anatomie, un livre que nous avons coécrit sur les séries télé.
Ah, c'était vous?
Voilà.
Ah, je me disais, ce visage m'était familier, ce ton de voix, cette prestance, ce port de tête, cette démarche.
Donc vous comprenez pourquoi c'est absolument indispensable d'avoir Romain Nigita pour nous parler des Monty Python. Alors Romain, comment se sont-ils rencontrés?
Alors, les Monty Python se sont rencontrés pour 5 d'entre eux sur les 6 lorsqu'ils étaient à l'université. Donc, en effet, les Monty Python, la plupart, ce sont des Britanniques, à part Terry Gilliam, qui est américain. Mais les 5 autres sont britanniques et ils ont fait de brillantes études dans des facs prestigieuses outre-Manche, Cambridge et Oxford. Et ils se sont d'abord rencontrés par petits groupes, par duos. Il y a d'abord eu John Cleese et Graham Chapman qui se sont rencontrés à Cambridge, Terry Jones et Michael Palin qui, eux, se sont rencontrés à Oxford, et puis Eric Idle qui, lui, également a fait Cambridge, mais quelques années plus tard. Et s'ils se sont rencontrés dans le cadre de ces universités, c'est tout simplement parce qu'il y a une tradition dans les facs britanniques, c'est d'avoir des troupes comiques qui font des sketchs sur scène, qui même parfois font des tournées. Et c'était le cas de ces jeunes garçons à l'époque qui avaient envie de monter sur scène, d'écrire des bêtises, de jouer des bêtises. Et évidemment, visiblement, ça a plutôt pas mal marché pour eux, puisqu'ensuite, ils sont partis en tournée, ils ont participé à des festivals. C'était notamment le cas lors du festival d'Édimbourg, c'est là justement qu'ils se sont rencontrés, ces troupes de Cambridge et d'Oxford, et qu'ils ont constaté qu'ils avaient le même humour. Donc ils sont restés en contact.
Sauf que Terry Gilliam, il n'était pas dans ces universités puisqu'il est américain.
Exactement. Et mais c'est aussi un peu grâce à
c'est
ça.
C'est pertinent quand même.
Tout à fait.
Comme
vous suivez bien l'histoire. Ça fait plaisir. John Cleese, justement avec sa troupe, lui, il a fait une tournée jusqu'aux États-Unis. Et c'est à New York que Terry Gilliam a vu justement les sketchs de la troupe de John Cleese. Et il a demandé à John Cleese de participer avec lui à un projet. Parce que Terry Gilliam, qui au départ est dessinateur, travaillait pour un magazine humoristique, un magazine papier. Et il avait un projet de faire un roman photo parodique. Et donc, il a demandé à John Cleese d'apparaître dans ce roman photo, ce qu'il a accepté. Ils se sont rendus compte là aussi qu'ils avaient un humour assez similaire. Ils sont restés en contact. Et quelques années plus tard, quand John Cleese a commencé à travailler à la télé, sur une émission qui n'était pas encore le Flying Circus, il a dit à Terry Gilliam, écoute, si tu fais rien, viens en Grande-Bretagne, viens faire pour nous des petits dessins animés rigolos. Et voilà. Le reste appartient à l'histoire, comme on dit.
And now, Mr. Terry Gilliam, I sing for you. I've got two legs.
Alors, leur début à la télévision, c'était pas directement le Monty Python, bien sûr, c'était en écrivant des sketchs pour des autres, c'est ça ?
Exactement, grâce à leur expérience sur la scène pour laquelle ils écrivaient eux-mêmes leurs sketchs, ils ont fini par être embauchés à la télévision pour travailler sur différentes émissions humoristiques de l'époque. On peut citer Do Not Adjust Your Set, Atlas The 1948 Show, Bonzo Dogs, qui était l'émission pour enfants mais construite autour d'un groupe de rock un peu psychédélique. Et d'ailleurs, Eric Idle a ensuite expliqué que c'est, d'après lui, grâce à cette émission qu'ils ont donné un côté un peu plus absurde à leur humour, parce que leur humour de troupe universitaire, c'était de la satire, mais il n'y avait pas encore le côté absurde, psychédélique, dada, même comme Eric Idle l'a dit. Donc c'est grâce à cette émission qu'ils l'ont acquis. Et l'une des émissions les plus importantes pour laquelle ils aient travaillé, c'était The Frost Report.
Ah oui, très célèbre quand même en Angleterre, David Frost.
Exactement, qui était un animateur et journaliste, un peu l'équivalent de Philippe Bouvard en Grande-Bretagne. Il a ensuite travaillé aux États-Unis où il a notamment fait une émission, une interview assez célèbre du président Nixon.
Il a eu un film d'ailleurs.
Exactement, un film de Ron Howard. Et c'est grâce à ses expériences sur ces différentes émissions dans lesquelles il travaillait, pas encore tous ensemble, pas les six ensemble, chacun par groupe de deux, trois, ils se recommandaient les uns les autres, tiens, tu devrais venir bosser avec nous. John Cleese apparaissait déjà un peu à l'antenne en tant qu'acteur dans ces sketchs-là, parce qu'avec son physique très grand, très maigre, c'était déjà un véritable personnage, il est devenu une petite vedette à son petit niveau grâce à cette expérience. Et c'est là qu'ils ont commencé à se faire un nom, à se faire des contacts, à se faire un réseau au sein de différentes chaînes de télévision britanniques.
Leur grande série télé à eux, c'est les Monty Python Flying Circus. C'est Monty Python Flying Circus, parce que c'est pas les Monty Python Flying Circus, c'est Monty Python Flying Circus. C'est bizarre comme titre, d'ailleurs.
Alors, la traduction littérale, c'est le cirque volant de Monty Python.
Voilà.
Monty Python qui serait une personne. Alors, le titre, même une fois traduit, ne veut strictement rien dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'un des responsables de la BBC les a repérés, les a vus écrire pour différentes émissions, il leur a dit, tiens, je vais vous filer votre propre projet. Et dans le contrat, il n'y avait absolument pas de concept, il n'y avait pas de titre, il n'y avait rien. Juste le fait que ça c'est si-là. Ces six personnes qui avaient travaillé ensemble, il y avait juste un espèce de nom de code, de nom de projet, qui était le cirque volant de Barry Took. Barry Took, c'était le fameux responsable de la BBC qui les a repérés. Cirque volant pour dire qu'en gros, c'était un gros bazar, qu'ils ne savaient absolument pas ce qu'ils allaient faire. Et du coup, comme ils ont bien aimé ce titre-là, ils l'ont gardé. Alors, ils avaient pensé à d'autres titres, des titres encore plus dingues, encore plus non-sensibles. Il y avait The Toad Elevating Moment, c'est-à-dire le moment d'élévation de la grenouille. The
whole...
Il y avait The Whole Stretching Time, le temps du hibou. Et il y avait également un titre qui était Un cheval, une cuillère, une cuvette. Donc ils ont finalement gardé Flying Circus, le cirque volant qui était donc dans ce nom provisoire dans le contrat. Mais alors pourquoi Monty Python ? Pourquoi ? Ils aimaient bien l'idée que ce soit le cirque volant de quelqu'un. Ils ont enlevé le vrai nom de Barry Took. Ils ont créé de toutes pièces ce nom Monty Python. Alors Monty parce que c'est un vrai prénom britannique qui les faisait beaucoup rire parce qu'ils connaissaient quelqu'un dans un pub qui s'appelait Monty. Voilà, ça faisait rire de reprendre le prénom de ce monsieur Monty.
C'est vrai que c'est rigolo comme prénom.
Ça sonne bien à l'oreille.
Oui.
Et Python, en référence au serpent, parce que c'est vicieux, c'est visqueux. Voilà, c'est eux-mêmes qui l'expliquent comme ça. Donc, le cirque volant de Monty Python, titre complètement absurde, parce que dans la série, il n'y a pas de cirque. Le personnage de Monty Python n'existe pas. Il n'y a personne qui s'appelle Monty Python dans l'émission, ni dans les films après. Donc, ça ne veut rien dire, mais finalement, ça finit par devenir le nom de leur troupe.
Good evening, ladies and gentlemen. You look and smell divine. Welcome to Monty's Musical. The show that leaves you wanting less. And a very big hand, please, for Terry Gilliam.
Bah, c'est ça, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que le nom d'une série télé devienne leur nom à eux, en fait.
Bah, ils ont été tellement associés à ça qu'on finit par les appeler les Monty Python.
Et donc, étant donné qu'il n'y avait pas de concept, pas d'idée, pas quoi que ce soit, tout était possible pour eux.
Tout était possible et c'est vraiment ça qui les a amusés finalement, puisqu'ils reprennent l'idée d'une émission à sketch comics qui a existé déjà depuis plusieurs années.
Oui, c'est pas très nouveau.
En Grande-Bretagne. Non, l'idée qu'ils ont eue, c'était d'enchaîner les différents sketchs avec une sorte de fil rouge. C'est un peu le principe du marabout bout de ficelle. C'est-à-dire que la fin d'un sketch mène au début du suivant. Alors, ils avouent aussi eux-mêmes que c'est parce qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver les chutes pour les sketchs. Donc, plutôt que de trouver une chute, eh ben, ils trouvaient des transitions pour passer à la suite. Ça passait souvent par le fait de briser le quatrième mur. L'un des gimmicks qu'ils employaient souvent, c'était le personnage du militaire, qui était joué par Graham Chapman, qui, à la fin d'un sketch, se tournait vers la caméra et disait bah, « Écoutez, ce sketch est complètement idiot, donc on va l'écourter, on passe à la suite ».
Donc en fait, c'est une succession de sketchs, mais qui étaient tous cohérents les uns avec l'autre, enfin, qui étaient tous liés les uns avec les autres, quoi. Ça pouvait pas vraiment être séparé, puisque à chaque fois, il y avait soit la fin qui renvoyait sur l'autre, soit même carrément des personnages de l'un qui arrivaient dans l'autre.
À chaque épisode constitue une espèce d'entité. Il n'y a pas forcément une thématique, mais il y a des personnages, des fois, d'un sketch du début de l'épisode qui réapparaissent dans un sketch de la fin de l'épisode. Il y a également les animations faites par Terry Gilliam qui permettaient de faire les transitions, parce que souvent un sketch se termine sur une animation et qui elle-même conduit au sketch suivant. Là aussi, c'est parce qu'il n'arrivait pas à trouver de chute et les animations de Terry Gilliam étaient bien pratiques pour ça.
Donc c'était au-delà de transition, c'était vraiment une thématique globale. On parle bien d'une série, donc ils innovent, ils font progresser la série à sketch pour en faire quelque chose de totalement cohérent. Est-ce que quand cette production démarre sur la BBC, est-ce que c'est le carton immédiat ou est-ce que ça a mis du temps pour s'imposer ?
Alors, le Flying Circus, ça a quand même mis un peu de temps à s'imposer à la télévision britannique. La première saison, au départ, la commande est de 13 épisodes. Et elle est diffusée un peu n'importe comment, pas vraiment à heure fixe, en tout cas assez tard. Une semaine oui, une semaine non, donc c'est assez compliqué de créer un rendez-vous. Et finalement, les téléspectateurs les plus fidèles et qui vont adhérer à cet humour-là, ce sont les enfants, les lycéens, les étudiants. Leurs parents, par contre, ne vont rien comprendre. Ça, c'est clair et net.
Et la BBC, visiblement, ne comprend rien non plus, puisqu'ils commandent un truc, ils le reçoivent et ils le programment un peu n'importe comment, en fait.
Parce qu'ils se demandent ce que c'est, les comédiens ne sont pas très connus, ils le diffusent, ils comprennent pas trop de quoi il s'agit. Et c'est vraiment à partir des saisons 2 et 3 que la série va commencer à faire parler d'elle, que de plus en plus de journaux et de journalistes vont en parler, et c'est à partir de ce succès grandissant que la BBC va commencer à mettre le nez un peu là-dedans.
Ah bah généralement c'est comme ça, plus ça marche, plus on se dit il faut quand même regarder ce qui s'y passe.
Et sauf que c'est absolument pas les thématiques auxquelles pensaient les Monty Python qui sont les plus risquées pour eux. C'est-à-dire que dans la série, ils s'attaquent à toutes les institutions, ouais. À la politique, à l'armée, à la religion.
Et souvent de façon assez violente d'ailleurs.
Assez caustique. Et c'est pas du tout ça qui va faire bondir la BBC, c'est plutôt quelques sketchs dans lesquels ils parlent de masturbation et de pipi. C'est là que la BBC va essayer de leur mettre les bâtons dans les roues, essayer de les censurer.
C'est pourquoi le niveau de possible...
niveau de tolérance de la BBC pour ce qui est de s'attaquer à tout ce qui est officiel, là, il n'y a aucun problème, mais dès qu'on parle de pipi, ah non, là, c'est il ne faut pas. Même. Donc, ils avaient quand même les mains assez libres.
Alors, la série a commencé à être diffusée le 5 octobre 1969. Et donc, cela jusqu'au mois de décembre 1974 sur BBC One, 45 épisodes, 4 saisons. Et la dernière saison, par contre, est la plus courte, je crois.
La dernière saison est la plus courte, elle est un peu différente, puisque c'est la seule dans laquelle n'apparaît pas John Cleese. Alors, il a aidé à l'écriture de cette dernière saison, mais il n'apparaît pas dedans. Il commençait à être un peu fatigué par le rythme écriture-tournage, parce que, exactement comme ce qu'il faisait sur scène, ce sont eux qui écrivent tout, avant bien sûr de jouer. Il ne réalise pas, mais supervise quand même de très près la production, le tournage, le montage. En parallèle, ils continuent tous à jouer sur scène. Et voilà, John Cleese, au bout d'un moment, il dit « Écoutez, moi, j'en peux plus, j'ai envie de faire autre chose. » C'est à nouveau celui qui était le plus connu. Il avait pas mal de propositions pour faire des choses sous son propre nom. Donc voilà, la dernière saison, il s'en est un peu éloigné. Et il faut avouer que c'est quand même la plus faible, même si elle reste évidemment largement supérieure à tout ce qui se faisait ou tout ce qui se fait encore en matière d'humour. Ouais. Mais voilà, mais des 4 saisons, c'est quand même la moins intéressante. On voit qu'ils sont un petit peu en bout de course.
Alors, on vient de parler de toutes les saisons du Monty Python. Il y a quand même des moments forts, généralement entre les premières et les deuxièmes saisons. Pour toi, quels sont les moments absolument incontournables, quelles sont les séquences devenues mythiques des Monty Python?
Alors, des moments forts dans le Phoenix Circus, il y en a des dizaines, mais si je devais en sélectionner juste quelques-uns, en tout cas l'un des plus célèbres, pour commencer, c'est le ministère des marches stupides. Comme son nom l'indique, c'est un ministère au sein duquel on vient proposer une démarche totalement loufoque. Donc ça tire parti de l'humour corporel que peut dégager John Cleese. Donc
oui, et son physique et ses jambes incroyablement longues.
Voilà, il est très grand, très mince, il a l'air très raide, mais en fait pas du tout. Il soulève les jambes d'une manière complètement dingue, complètement souple, on a l'impression qu'il va tout le temps tomber, c'est pas du tout le cas. Et là aussi, ça part du point de vue que l'État anglais, l'administration, est un truc totalement absurde, avec des bureaux et des sous-bureaux et des sous-sections. Donc pourquoi pas une section pour laquelle on pourrait proposer des marches totalement stupides, comme son nom l'indique. Alors en audio, ça ne donne strictement rien. Il faut le voir pour le croire. C'est vraiment un des sketchs les plus connus, en tout cas des Monty Python.
Et toi, ton préféré, c'est lequel?
Alors parmi mes préférés, je dois avouer qu'il y a quand même l'Inquisition espagnole, qui est au départ une espèce de parodie de feuilleton historique, dramatique, anglais, tel qu'il y en a des dizaines, avec des gens qui disent « Mon Dieu, madame, il y a un problème à l'usine, le moulin ne fonctionne plus ». Et là, d'un seul coup, en plein milieu, débarque l'Inquisition espagnole.
« Spanish Inquisition ».
Bah, c'est ce qu'on vient d'entendre, justement.
Parce que personne n'attend l'Inquisition espagnole. Et avec trois inquisiteurs complètement incompétents, qui oublient les trucs, qui ne savent pas torturer leurs victimes. Enfin, c'est totalement absurde et c'est très, très, très drôle. Et l'autre sketch, moi aussi, que je trouve absolument formidable, c'est notamment le perroquet bleu. Le perroquet mort, qui est un exemple de mauvaise foi totale, puisque c'est quelqu'un qui se rend dans une animalerie, qui dit, voilà, le perroquet que vous m'avez vendu ce matin, eh bien, en fait, il est mort. Et le vendeur dit, non, pas du tout, regardez, il est bien vivant. Mais si, il est mort, regardez. Mais non, je vous assure que non. Et ça dure comme ça pendant des heures.
Enter into it, he's stone dead.
No, he's resting.
All right, if he's resting, I'll wake him up. Hello, Mr. Polly Parrot. I've got a lovely fresh cut of fish. No, he didn't. That was you hitting the cage.
Oh, never.
Et puis voilà, moi pour moi le summum des Monty Python, là, l'une des icônes de cette troupe, c'est une chanson, c'est la chanson du lumberjack, c'est-à-dire la chanson du bûcheron. C'est un bûcheron qui chante comment se passe sa journée. Il y a même un chœur à côté, un chœur qui est formé d'officiers de la police montée canadienne qui reprennent en chœur tout ce que le bûcheron chante. Alors, au début, ça démarre très normal. Je suis un bûcheron, je travaille toute la journée, je dors toute la nuit, j'abats des arbres, je travaille, je suis au grand air, c'est formidable.
Oui, c'est un peu ridicule comme chanson.
Voilà, les chœurs derrière qui reprennent, ils travaillent au grand air, ils travaillent toute la journée, ils dorment la nuit et tout. Deuxième couplet, oui, puis la nuit, je mets des bas, je mets les talons aiguilles, je sors dans les bars, comme faisait mon papa. Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc c'est comme ça progresse petit à petit dans le délire complet. À la fin, tout le monde s'en va et le laisse tout seul.
I cut down trees where high heels suspend his and a bra. I wish I'd been a girly just like my dear papa.
Bon, tout ça est formidable, mais ce qui est quand même surprenant, c'est que malgré le succès de leur film au cinéma en France, on n'a pas la série télé. On la voit pas. Il y a plein de séries télé qu'on n'a pas en France. Mais celle-là, alors qu'ils font un carton, personne ne pense à la diffuser. Qu'est-ce qui se passe?
Bah déjà, les films, il faut bien se rendre compte qu'ils arrivent après la série.
C'est vrai.
Donc quand ils font la série en Grande-Bretagne, les films n'existent pas. Donc au moment exact de la série, en France, personne ne les connaît. L'un des problèmes, c'est que déjà, la télévision française, à la fin des années 60, début des années 70, on diffuse très peu de comédies étrangères. Très peu de comédies américaines, très peu de comédies anglaises.
C'est vrai.
Parce que les responsables des chaînes françaises estiment que l'humour anglais ou l'humour américain ne va pas être compris par le public français. Donc il y a très peu de sitcoms de cette époque-là qu'on voit en France à l'époque. Il y a aussi un problème technique, c'est que, comme beaucoup de productions de la BBC, le Phoenix Circus est tourné en vidéo. C'est un peu le cas de beaucoup de séries de la BBC de l'époque, comme Doctor Who, par exemple. Et c'est vrai que c'était au départ un peu le nec plus ultra de tourner en vidéo, mais ça donne une qualité à l'époque d'image qui est vraiment inférieure aux séries qui sont tournées sur pellicule.
Mais ouais, ça ressemble un peu à un direct ou au journal de 20 heures, quoi. Donc, pour plonger les gens dans ce qu'on voudrait être un film de cinéma, entre guillemets, une fiction, c'est un peu délicat, parce que ça ressemble quand même à du direct.
Et d'ailleurs, les séries britanniques qu'on voit à l'époque en France, des séries comme Chapeau Melon Botte de Cuir, comme Le Saint, comme Le Prisonnier, ce sont des séries qui sont tournées par des chaînes privées et qui sont tournées sur pellicule. Justement, ça leur donne un espèce de cachet un peu cinéma. Mais les séries vidéo, on ne les voit pas. Donc voilà, il y a le problème de format technique et le problème de l'humour. Et ce problème de format a aussi été problématique pour la diffusion aux États-Unis du Flying Circus. Alors là, à cause des normes techniques, en Grande-Bretagne, on est en PAL. En France, c'est le PAL-SECAM, c'est pas loin, mais aux États-Unis, c'est le NTSC. La fréquence d'image n'est pas la même, ça coûte très cher de transcoder ça, surtout pour une émission avec une troupe qui n'est pas très connue. Et finalement, c'est ce problème technique qui va permettre aux Monty Python d'avoir leur première expérience cinématographique.
Ça, c'est assez étonnant.
En fait, il se trouve qu'à cette époque-là, à Londres, il y a un club, un bar, qui s'appelle le Playboy Club.
Oui, ça, tout le monde a entendu parler. Il y a même une courte série télé sur le sujet. Mais tout le monde a entendu parler de Playboy et de ses clubs, avec les bunnies qui servaient un verre à des messieurs qui les reluquaient.
Exactement.
Grosso modo, c'est ça, quoi.
C'était vraiment des clubs franchisés du célèbre magazine de charme. Et celui qui le gérait à Londres, c'était un Américain. Et il regarde la télé donc en Angleterre et il voit les Monty Python. Et il trouve ça génial. Et il en parle à ses copains aux États-Unis. Il leur dit, mais il y a ce truc en Angleterre, c'est complètement dément. C'est dommage que vous puissiez pas le voir puisque c'est compliqué pour les formats techniques d'envoyer des missions aux États-Unis. Et il en parle au patron de Playboy, le célèbre Hugh Hefner, vous savez, ce vieux monsieur qui traînait tout le temps en robe de chambre et en pyjama dans son manoir. Et finalement, à force d'en discuter, de lui dire que ces gens-là sont géniales, ils finissent par se dire, on n'a qu'à financer un film. Et finalement,
c'est aussi simple que ça, quoi. Finalement, quand on est responsable de Playboy, c'est vrai.
Et plutôt que de diffuser, de transcoder les émissions telles qu'elles étaient tournées pour la télé britannique, ils ont tout simplement fait des remakes des sketchs. Donc en fait, le tout premier film des Monty Python qui s'appelle And Now for Something Completely Different, qui est un peu le gimmick du personnage de John Cleese derrière son bureau dans l'émission qui fait la transition entre les sketchs, c'est tout simplement des remakes purs et simples des meilleurs sketchs de la version télé. Et ce film reprend exactement la même structure qu'un épisode de la série télé, avec un espèce de fil rouge, le côté marabout bout de ficelle. Et c'est donc ça qui sort aux États-Unis. Et c'est ça qu'on voit également en France.
Ouais.
Avant même que Sacré Graal, le premier vrai film des Monty Python, ne sorte. Donc quand sort ce film en France, il sort sous le titre Patakès. Avec une affiche.
On fait aucune référence au groupe Monty Python.
Parce qu'on
qui est connu, on les connaît pas.
On n'a pas vu l'émission et Sacré Graal n'est pas encore sorti. Ouais. Il y a une affiche qui est dessinée par Gottlieb et ça fait
pour
un
donner
four.
Un peu le ton humour. Quoi.
Voilà, mais ça fait un four total puisque personne ne les connaît. Et du coup, ce même film ressortira quelques années plus tard, une fois que Sacré Graal et la vie de Brian ont eu un peu de succès en France, et sortira sous le titre La première folie des Monty Python. Là, on capitalise totalement sur leur nom qui est enfin devenu célèbre.
Après ce triomphe télévisuel, les Pitons vont continuer la carrière cinématographique que l'on sait. Sacré Graal en 75, La vie de Brian en 79 et Le sens de la vie en 1983. Mais ils n'oublieront pas la télé pour autant, même de façon isolée. Une des résultantes des Monty Python, c'est un chef-d'œuvre télévisuel, ni plus ni moins. Un maître étalon de la comédie, Fawlty Towers, L'hôtel en folie, en 1975. Pendant leur tournée en Grande-Bretagne en mai 1971, les Monty Python séjournent dans un hôtel dirigé par l'homme le plus impoli de la Terre. C'est eux qui le disent. À Torquay, c'était le Glen Eagles Hotel. Et le propriétaire s'appelait Donald Sinclair. Ce directeur arrogant fait par exemple une remarque à Terry Gilliam qui découpe puis mange sa viande en faisant passer sa fourchette de la main gauche pour découper la viande à la main droite pour manger. Et lui dit « Oh mais on ne mange pas de cette façon-là chez nous ». Et à peine Eric Idle laisse-t-il sa valise sur le perron de l'hôtel quelques secondes, que Sinclair s'en saisit, la balance de l'autre côté du mur, car il dit « il peut y avoir une bombe dedans ». Bref, un type absolument odieux, un vrai personnage de sitcom. Alors, John Cleese va déjà explorer le potentiel d'un tel personnage en écrivant un épisode de « Doctor at Large », une sitcom assez connue en Grande-Bretagne, avec un épisode dans un hôtel dirigé par Donald Sinclair, justement. Et quelques années plus tard, il va lancer le projet de Fawlty Towers. Chacun des 12 épisodes de Fawlty Towers nous plonge dans un tourbillon totalement hystérique, d'une précision époustouflante. Son personnage, c'est Basil Fawlty. C'est le propriétaire d'un hôtel à Torquay, donc, dans le Devonshire. Il ne laisse personne oublier qu'il est le maître des lieux, pas même les clients. Il est incompétent, agressif, détestable, hautain, terriblement imbu de sa personne et de sa soi-disant position sociale. Il jette un regard dédaigneux sur le commun des mortels qui ose venir le déranger en prenant une chambre dans son hôtel. Il est obséquieux jusqu'au ridicule et excepté quand il s'agit de gens importants et comme il faut, selon l'échec de valeur de Basil Fawlty, à savoir des aristocrates, des docteurs ou des hommes de loi. Sans Sibyl, sa femme, l'hôtel serait déjà vide. Sans Manuel, qui ne comprend pas un traître mot de ce qu'on lui dit, les bagages seraient correctement amenés dans les chambres. Sans Polly, la folie régnerait en permanence dans cet hôtel où personne ne revient une seconde fois. Cleese et Connie Booth mettent 4 mois pour écrire les épisodes de chaque saison, avec des chorégraphies habilement préparées, de gestes, de portes qui claquent, de passages, de rencontres. Tout ça est extrêmement ciselé et très précis, chaque scène d'une précision absolument diabolique. Chaque script compte 140 pages, alors que la moyenne en général est de 65. Le tout pour un coût de 20 000 livres par épisode. Les épisodes sont tournés devant un public que Cleese et les autres choisissent d'ignorer. Il ne fait pas de pause qui laisserait le temps de rire au public, mais il enchaîne directement avec la réplique suivante. Et tout cela donne un rythme absolument effréné. Le tournage commence à 20h et dure 2h. Et s'ensuit 25 heures de montage pour resserrer le tout. Un peu comme le Flying Circus, le résultat a mis un peu plus de temps pour se faire sentir, mais au final, Fawlty Towers a eu encore plus de succès que le Flying Circus. Encore de nos jours, on considère cette sitcom comme étant une des plus grandes comédies, un maître étalon pour toutes les comédies à travers le monde. Mais il n'y a pas que Fawlty Towers dans la carrière des Monty Python, même en dehors du Monty Python Flying Circus, n'est-ce pas Romain ?
Les différents membres des Monty Python ont fait beaucoup de choses, au cinéma évidemment, mais aussi à la télé. Il n'y a pas eu que le Flying Circus. Alors le premier, hormis John Cleese et Fawlty Towers, le premier qui fait quelque chose de marquant à la télé, c'est Eric Idle. Alors Eric Idle, il faut quand même savoir que c'est le mélomane de la bande. C'est lui qui écrit les chansons, c'est lui qui écrit Always Look on the Bright Side of Life. Mmh. Donc c'est vraiment lui qui passionné par ça, par le côté musical, et ils vont en profiter pour créer les Ruttles. Alors les Ruttles, c'est une parodie des Beatles. Et il va écrire et produire un faux documentaire qui parodie la carrière des Beatles. Et ça
assez méchamment d'ailleurs.
Assez méchamment, mais aussi avec beaucoup d'amitié, parce qu'il les connaît. Il connaît Paul McCartney, et c'est parce qu'il les aime bien qu'il les châtie bien. Ouais. Et ça va s'appeler The Ruttles All You Need Is Cash.
Oui, je pas quand même. Voilà, ça donne quand même le ton que c'est pas super gentil. Quoi.
Avec une scène assez culte où ils se font prendre à la douane pour un trafic de thé plutôt qu'un trafic de marijuana. Et donc c'est diffusé en 78 et c'est un peu l'ancêtre des parodies de documentaires. Notamment, ça a franchement influencé Spinal Tap, qui est un film qui est sorti au cinéma au milieu des années 80 et qui était un faux documentaire qui suivait un groupe de heavy metal. C'est un film absolument culte, hein, voyez-le si vous ne l'avez pas vu, mais c'est vrai que les Ruttles, qui étaient faits pour la télé, c'est un peu, même clairement, l'influence et l'ancêtre de Spinal Tap.
Et puis, il y a quand même, je crois que c'est Michael Palin qui a lancé un genre à lui tout seul.
Alors là, on n'est plus du tout dans l'humour. Mais c'est vrai que Michael Palin a marqué, on peut le dire, l'histoire de la télévision, de manière générale, en inventant quasiment à lui tout seul les émissions de voyage à la première personne. C'est-à-dire que les documentaires de voyage, ça existait, mais des choses avec des belles images et une voix off qui disait « Bonjour, voici des belles images du volcan que vous voyez. » Des trucs un peu pompeux.
Et Michael le fait très bien. Hein, je veux remarquer que si vous avez besoin d'une voix off pour vos documentaires un peu pompeux, vous avez ce qu'il faut.
Sauf que Michael Palin, lui, qui aime voyager dans sa vie privée, lui, il a fait ça, mais en se mettant en scène à l'image. C'est-à-dire que c'est lui qu'on voit à l'image. Venez, venez avec moi, on va découvrir les pyramides, on va aller dans la Pampa argentine, venez, oh, c'est sympa, dis donc, et on le voit parler avec les gens. Vous allez me dire, maintenant, on voit ça partout. On voit ça sur France 5, Échappée Belle, Je viens dormir chez vous, etc. C'est ce qu'on voit partout.
John Hulmelet en a fait un et continue d'en faire.
Exactement, quoi. En Inde, etc. Mais c'est Michael Palin qui a vraiment quasiment créé ça lui tout seul à la fin des années 80. Il continue à en faire régulièrement. Il a même reçu, il a été anobli pour ça, plus que pour les Monty Python.
Formidable.
Donc voilà, il a créé un genre télévisuel quasiment de toutes pièces.
Et les Monty Python, ce ne sont pas que des séries télé, ce sont aussi, depuis le début, des spectacles. Et tu as même eu la chance de voir l'un des tout derniers.
Exactement.
Donc raconte-nous un peu, c'est un spectacle Monty Python, c'est quoi ? C'est des écrans géants et puis ils sont devant et puis ils lancent des sketchs. Qu'est-ce qui se passe ?
Les spectacles des Monty Python, ils rejouent certains des sketchs sur scène. Puisqu'ils ont vraiment l'habitude de la scène au départ de par leur expérience à l'université. Mais ils reprennent les meilleurs sketchs qu'ils ont fait pour la télé et les adaptent pour la scène. Ils ont fait ça avant même que le Flying Circus s'arrête. Ils ont fait ça dès 1971. Donc en parallèle de l'émission, ils ont fait des tournées en Grande-Bretagne et au Canada. C'est d'ailleurs lors de la tournée au Canada qu'ils sont tombés sur ce fameux hôtelier Fawlty Towers. Ils ont recommencé en 1980, notamment aux États-Unis. Il y a une captation célèbre au Hollywood Bowl. Et on voit que bah ils font des sketchs sur scène, ils vont même dans le public avec John Cleese qui fait l'ouvreuse, qui vend des petits snacks à manger, notamment de l'albatros. On peut manger de l'albatros lors de Albatros, Albatros, où on Albatros. Voilà. Et ils se sont réunis à nouveau il y a quelques années, c'était en 2014, ils étaient au Millennium Dome, le O2 à Londres, c'est une salle gigantesque, un peu comme Bercy à Paris. C'était un peu le chant du cygne, c'était un peu un espèce de tournée d'adieu, parce que malheureusement, bah, Graham Chapman est mort à la fin des années 80. Graham Chapman, c'est lui qui jouait le roi Arthur dans Sacré Graal, et c'est lui qui jouait Brian dans La Vie de Brian. D'ailleurs, le spectacle s'intitulait One Down, Five to Go, c'est-à-dire un foutu, il en reste plus que cinq.
C'est d'un cynisme, c'est génial.
Avec une affiche qui était un cimetière avec le fameux pied qui fait prout du générique, qui s'abat au milieu du cimetière.
D'accord.
Et donc, bah, c'était un truc assez assez épique comme spectacle, parce qu'il y a non seulement bah, les cinq survivants, mais il y avait une troupe de danseuses et de choristes, il y avait un orchestre, et c'était bah, des sketchs joués sur scène avec également des chansons, mais tout ça en live. Quelques petits extraits dans les écrans pour faire des transitions, mais principalement du live avec des guests.
Et ils arrivent dans le TARDIS.
Dans le RI TARDIS.
Le RI TARDIS.
C'est-à-dire un jeu de mots entre TARDIS, la cabine de Doctor Who, et retard, qui veut dire abruti. Donc ils ont beaucoup d'humour sur même d'autodérision
et sur une musique qui fait quand même fortement penser à la musique de Doctor Who.
Fortement penser à Doctor Who. Et quand ils en sortent, donc c'est la première fois qu'on le revoit sur scène depuis tant d'années, ils commencent par jouer un sketch en espagnol, le sketch sur le lama. Et donc voilà, ils vont chanter la chanson sur le sperme, qui est la chanson du sens de la vie. Il y a des guests, il y a Mike Myers de Wayne's World, il y a Stephen Hawking qui fait un caméo en vidéo. Enfin, ils refont tous les trucs les plus connus, Always Look on the Bright Side of Life. Ils font Blackmail, le sketch sur le chantage. Ils refont le Spanish Inquisition, l'Inquisition espagnole. Ils refont le perroquet bleu. Ils refont tout ça sur scène, c'est absolument génial. Le public est complice, le public répond des fois sur certains sketchs. Enfin, c'était un moment assez brillant. Et malheureusement, c'est peut-être la dernière fois qu'on pourra tous les voir comme ça. Parce que non seulement, en effet, Graham Chapman est décédé, mais en plus, Terry Jones, maintenant, depuis quelques années, a une maladie neurologique. Donc, c'est a priori impossible de les revoir sur scène avec lui. Donc, c'était un très beau moment, en tout cas, pour conclure cette période-là de leur carrière. Même s'ils continuent encore certains à faire de la scène, John Cleese et Eric Idle continuent à faire des espèces de petits one-man shows, des fois en tandem, des fois tout seuls. Ils font beaucoup de tournées au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Malheureusement, ils ne sont pas passés en France. Bon, on espère qu'on pourra les voir.
Alors, il y a eu quand même aussi d'autres spectacles, avec ou sans eux. Il y a le fameux Spamalot aussi.
Spamalot, c'est une version sur scène comédie musicale de Sacré Graal. Alors, c'est quand même eux qui l'ont supervisé, surtout Eric Idle, encore une fois. Ça a eu un très grand succès en Grande-Bretagne et à Broadway aux États-Unis. On l'a même vu en France, c'est adapté sur scène en France. C'était mis en scène par PEF, des Robin des Bois. Avec pas mal de petites références à la culture française, donc c'était vraiment une véritable adaptation. Il y avait des petites piques lancées à la comédie musicale Robin des Bois avec M. Pokora, la voix de Dieu était interprétée par Omar Sy, donc c'était vraiment une adaptation assez sympa.
En 2007, il y a encore un autre spectacle, mais alors là par contre j'ai absolument rien compris, j'ai lu qu'il s'agissait d'un oratorio comique, un oratorio comique. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Alors un oratorio, c'est eux qui l'ont intitulé comme ça. C'est disponible en DVD, en Blu-ray, ça se trouve. Donc c'est La Vie de Brian, donc leur film qui est un peu une parodie des Saintes Écritures par quelqu'un qui est né en même temps que Jésus, mais qui a une trajectoire parallèle. Et un oratorio, c'est pour dire que ça n'est pas un opéra, c'est-à-dire que les chanteurs ne sont pas costumés, il n'y a pas de mise en scène, mais il y a quand même des chanteurs qui chantent devant l'orchestre. Donc il y a quand même une histoire, mais il n'y a pas toute une mise en scène. Alors ça a quand même été produit et interprété au Royal Albert Hall, qui est une salle très prestigieuse à Londres. Il y a tout un cérémonial, tout un côté très pompeux, mais avec l'humour des Monty Python. Et le moment, moi, que je préfère dans ce truc-là, c'est qu'à un moment, il y a une question qui est posée, et pour y répondre, apparaît à l'autre bout de la salle, Terry Gilliam, habillé en queue de pie, avec un grand manuscrit entre les mains.
Et puis Terry Gilliam,
Terry Gilliam. Et donc on le voit descendre le grand escalier marche par marche, très lentement.
Sous un tonnerre d'applaudissements.
Voilà, tout le monde attend, parce qu'on attend la réponse. Donc il traverse toute la salle, ça prend des pompes. Il arrive sur scène, il ouvre le livre, il lit la réponse, non. Il referme et il s'en va.
Ah d'accord, bien.
Bah, c'est typiquement l'humour des Monty Python.
Ah, c'est complètement eux. Romain, pourquoi est-ce que c'est pertinent, comme je le disais au début de ce podcast, de parler des Monty Python ici, maintenant, en 2019?
Eh bien, tout simplement parce que le Flying Circus a démarré en 1969.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si nos auditeurs sont futés, ils ont donc compris.
Ah bah, s'ils sont doués en calcul mental, bah ça fait donc 50 ans. Enfin, ça fera 50 ans en octobre. Mais cette année, c'est le 50e anniversaire du Flying Circus. Et c'est pas juste nous qui avions envie de célébrer ces 50 ans, puisque les Monty Python eux-mêmes n'arrêtent pas de teaser sur les réseaux sociaux officiels comme qu'ils préparent quelque chose. Alors, on sait pas exactement ce que ça sera, mais visiblement, si on met bout à bout tous les indices, on devrait avoir droit, d'ici la fin de l'année, à une version entièrement remasterisée du Flying Circus, les 45 épisodes remasterisés avec une image nettoyée. Alors, attention.
Oui, parce que c'est de la vidéo de l'époque, définition standard, donc remasterisé, c'est pas...
Ça sera pas une version HD aussi sublime que ce qu'on a pu avoir pour Star Trek ou pour Chapeau Melon et Bottes de Cuir ou des séries comme ça, qui étaient tournées en pellicule, 35 mm. Alors quand même, ça pourrait être utile parce que les techniques de compression vidéo ont pas mal évolué. Les copies qu'on a actuellement, c'est des copies qui étaient sorties en DVD au début du DVD, donc il y a quasiment 20 ans. Et un DVD, même avec la même définition, aujourd'hui, on peut faire mieux. On peut nettoyer un peu l'image. Et il y a quand même des parties qui étaient tournées sur pellicule pour le Flying Circus. C'est tout ce qui était tourné en extérieur. C'était en pellicule. On voit souvent ça sur les séries anglaises de l'époque, même si vous vous souvenez de Benny Hill. Il y a une différence très notable de qualité entre ce qui est tourné en studio et ce qui est tourné en extérieur.
Absolument.
Ou même Mr. Bean, ça se voit vraiment. Bah, nous, ce qui était en extérieur, c'était sur pellicule avec des caméras un peu plus légères, parce que les caméras vidéo de l'époque, c'était des énormes caméras qu'il fallait brancher sur le courant. C'était impossible de les faire sortir des studios. Et également, toutes les transitions animées de Terry Gilliam étaient sur pellicule.
Ah oui.
Et ce qui est formidable, c'est que Terry Gilliam a récupéré tous les rushs. Puisque on a failli ne plus jamais revoir le Flying Circus. Puisque tout ce qui était tourné en vidéo à l'époque pour la télé britannique, comme Doctor Who, ben les responsables de BBC se disaient « Bon voilà, c'est diffusé, ça a plu, mais ça n'intéressera jamais personne de revoir tout ça. »
Non, jamais.
Et puis la vidéo, ça coûte cher. Et les cassettes vidéo, les cassettes professionnelles, ça coûtait très cher. Donc on va les réutiliser. Vous vous souvenez, comme vous, pour les VHS, quand on écrasait...
On effaçait les choses, on enregistrait quelque chose par-dessus, oui.
Exactement. Ben, c'est ce qui s'est passé pour pas mal d'épisodes de Doctor Who. Il y a des épisodes de Doctor Who qu'on ne reverra jamais, qui sont totalement perdus. Et ça a failli être la même chose sur le Flying Circus, sauf que les gars des Monty Python, notamment Terry Jones, ils avaient des copains sur la BBC qui leur disaient « Fais gaffe, là, ils vont tout jeter, donc viens récupère les cassettes, mets-les dans ton grenier, ça pourra servir un jour. » Donc Terry Jones avait récupéré tous les masters et Terry Gilliam a récupéré tous les rushs de ses animations. Donc voilà, tout le matériel est là, ils sont visiblement en train de travailler dessus, on a vu des petites vidéos dans lesquelles ils font passer des bandes dans des lecteurs pour nettoyer l'image, etc. Donc logiquement, on devrait avoir la meilleure qualité d'image possible du Flying Circus d'ici la fin de l'année. De toute façon, c'est déjà disponible en DVD, on trouve les DVD absolument partout. C'est même disponible sur une célèbre plateforme de streaming, vous savez, celle qui commence par net et qui finit par Flix.
Ah oui, Amazon.
Voilà. Sauf que voilà, les plateformes, ça arrive, mais les programmes repartent aussi des fois. C'est pas,
oui, ça dure pas, c'est pas définitif.
Donc voilà,
c'est pas une bibliothèque chez soi.
Exactement. Donc il y a les DVD et il y aura probablement ces nouvelles versions, peut-être en Blu-ray d'ici la fin de l'année.
Eh bien, merci beaucoup, Romain, d'avoir partagé ton savoir quasi encyclopédique, même totalement encyclopédique.
Mais c'était un vrai plaisir, là.
Ce savoir sur les Monty Python. Moi, je rappelle qu'on te retrouve à parler série, donc dans le JDD.
Tous les dimanches.
La semaine prochaine, eh bien, il n'y aura pas de nouveau Previously. Nous faisons une pause bien méritée. Et se joignent à moi tous ceux qui, au sein de Prisma Media, ont œuvré pour qu'ils existent semaine après semaine. Marine, Thierry, Mélissa, Solène, César, Elodie, Fabrice et ceux aussi qui m'ont aidé comme Romain et Olivier. Et on sera de retour à la rentrée avec plein de nouveaux Previously. Lesquels ? Quelle série ? Allez, à vous de trouver. C'est parti.
Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.